On sait tous plus ou moins que la mode, elle a un impact très négatif. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'acheter des nouvelles fringues. Vous, en tout cas moi, c'est sûr que j'achète des nouvelles fringues de manière assez régulière. Vous allez voir, les chiffres sont colossaux, ils sont même hallucinants. Et avec mon invité du jour, Julia Faure, qui est la fondatrice de Loom, qui est la présidente de En Mode Climat, qui est aussi la coprésidente de Mouvement Impact, on va vraiment se poser des questions dans le détail. Elle va être hyper explicite, hyper pédagogue aussi pour vous expliquer c'est quoi la différence entre la qualité et la durabilité. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est une bonne fringue? C'est quoi le problème fondamental dans la mode? C'est quoi les impacts sociaux? C'est quoi les impacts climatiques? Est-ce que vraiment la problématique c'est l'eau? Comment on trouve des marques qui sont vraiment engagées? Comment on peut choisir ses fringues? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Est-ce que vraiment c'est à notre niveau que ça se joue? Bref, vous allez voir, on parle de plein de choses avec Julia. C'est passionnant, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. C'est très utile surtout. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va bien.
On va parler des fringues, on va parler de la fast fashion, de la pollution, d'écologie, etc. Quand est-ce que c'est parti en sucette? Comment on arrive à cette situation aujourd'hui où il y a des tonnes de fringues qui sont brûlées? Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Alors, je dirais que les problèmes actuels du textile, de la mode, c'est-à-dire, bon, tu parles de fringues brûlées, mais c'est vraiment le plus petit des problèmes. Le problème actuel, c'est vraiment les volumes. C'est-à-dire, on produit et on consomme des quantités de vêtements astronomiques. Et comme on n'a pas le temps, et comme on continue à produire et qu'on continue à consommer, on jette, on ne sait pas quoi faire des déchets, etc. Pour te donner un chiffre, dans les années 80, en France, on consommait 1,4 milliard de vêtements. En 2022, le chiffre, c'est 3,3 milliards.
Ah, c'est ouf.
Ouais, donc on n'a pas plus que doublé la population française, on n'a pas plus que
Ça, c'est en France?
C'est juste la France, ouais.
Ah oui, parce qu'on n'est pas 3 milliards non plus, quoi.
Non, on n'est pas 3 milliards. Donc, ça fait 50 fringues neuves par personne par an.
Wow.
Et donc, c'est plus de deux fois plus que dans les années 80. Et donc, ce doublement de notre consommation, il ne correspond à aucun nouveau besoin. Enfin, la population n'a pas augmenté d'autant, on n'a pas plus d'heures de sa vie à s'habiller. Enfin, vraiment, c'est juste ce doublement de la Et dans les années 80, on n'était pas. Enfin, moi, j'étais pas là, mais
nos parents n'étaient pas nus non plus. Quoi.
Non, mais ils étaient ni nus ni en haillons, tu vois.
Ouais, ouais.
Enfin, ils étaient voire plutôt assez stylés. Et donc voilà, c'est ce doublement de la quantité de vêtements produits, ça fait que globalement, les externalités négatives du textile, elles ont été doublées aussi. Enfin, tu vois, genre, il faut que tu utilises deux fois plus de terre pour produire deux fois plus de coton, comme généralement on utilise du coton conventionnel, c'est deux fois plus de pesticides. Enfin, tu vois, c'est tout, deux fois plus de microplastiques. En fait, tous les problèmes du textile, si on produisait dans tous les problèmes écologiques du textile dont tu as entendu parler, si on produisait dans des quantités raisonnables, bah, les problèmes seraient dans des quantités raisonnables. Mais comme on produit vraiment, littéralement, des milliards de fringues dont on n'a pas besoin, eh ben, on produit avec voilà, des milliards de problèmes qui pourraient être évités.
Et alors, quand est-ce que c'est parti, justement, enfin je reviens sur ma question, mais quand est-ce que c'est parti en sucette? À quel moment, parce que dans les années 80, donc on n'y était pas, et à quel moment ça a dérapé?
Dans les années 80, en fait, voilà, pour savoir quand c'est parti
enfin,
en sucette...
Enfin, on était déjà pas mal, parce qu'un milliard et demi de fringues...
2,5 milliards, c'était une vingtaine de fringues neuves par personne par an.
Ce qui est déjà beaucoup.
Enfin, ce qui est déjà beaucoup. Nous, on a fait le calcul, si on voulait être compatible avec les objectifs de l'accord de Paris, il faudrait qu'on se limite à 5 fringues neuves par an, par personne. Parlons de comment on est passé de la situation des années 80 à aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on a doublé notre consommation de vêtements? La première chose qui fait qu'on achète deux fois plus de vêtements que dans les années 80, c'est que les prix des vêtements, enfin les vêtements sont devenus pas chers. Et les vêtements sont devenus pas chers avec une solution hyper simple qui consiste à délocaliser la production des pays qui protègent bien les gens et qui les payent dignement vers des pays qui font pas tout ça. Et donc c'est exactement ça, en fait, ces années 80-90, ça correspond à la délocalisation de l'industrie française, mais pas que, hein, et du textile, mais pas que, dans des pays moins disants socialement et écologiquement. Pour donner une idée, le salaire, le SMIC au Bangladesh, qui est un gros pays producteur de textiles, c'est 80 euros. Et alors on peut se dire, bah oui, au Bangladesh, 80 euros...
c'est peut-être pas mal.
C'est peut-être pas mal pour vivre. Bon. Et du coup, il y a des ONG qui ont fait des... qui calculent un indicateur pour savoir si le salaire minimum des pays, il est bien ou pas. Cet indicateur, ça s'appelle le salaire vital. En gros, ils regardent combien ça coûte la vie dans le pays et ils disent, voilà, si le minimum du minimum pour manger, pour avoir un toit sur la tête, pour avoir tes enfants à l'école, c'est ça. Voilà, c'est le salaire vital, c'est ça. Au Bangladesh, le salaire minimum, il correspond à 20% du salaire vital. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire que les gens qui travaillent et qui font nos vêtements, ils sont payés une misère. Ils sont payés 20% de ce qu'ils devraient gagner pour...
survivre.
Enfin, ouais, pour vivre dignement.
Ouais, c'est, en fait, c'est ça.
Parce qu'ils survivent. Et donc pour donner une autre image, ça serait comme si tu bossais en France à plein temps, et que tu étais payé environ 500 euros par mois. C'est le niveau de vie que ça te donnerait en France. Tu vois bien qu'en France, avec 500 euros par mois, sauf si t'es héritier et que tu vis chez tes parents et tout ça, tu peux pas te nourrir, tu peux pas et te nourrir et te loger et te déplacer et encore moins avoir des enfants, etc. Donc c'est pour avoir un ordre d'idée, c'est ça qui a permis de faire baisser le prix des vêtements. C'est parce qu'on a été produire dans des pays qui payent mal les gens. Et même si le niveau de vie est moins important qu'en France ou en Europe, les salaires sont beaucoup trop bas pour assurer voilà un socle minimum. Donc c'est ça la raison principale de pourquoi la mode est partie en vrille, c'est les délocalisations.
Ça et la qualité, non, c'est pas aussi des qualités qui sont beaucoup moins bonnes. J'ai l'impression que les fringues en tout cas la fast fashion, les fringues, je sais pas si elles durent pas ou si les gens les changent parce que juste c'est pas cher. J'ai du mal à savoir parce que moi je suis pas consommateur pour le coup de fast fashion. Mais j'ai l'impression que la qualité n'est pas là non plus. C'est-à-dire qu'un t-shirt, il va se déformer, les produits vont perdre leur couleur. Enfin, tu vois, ça, il va y avoir des trous. Ou peut-être pas, hein, d'ailleurs, je me trompe.
Ouais,
peut-être.
Ouais. Bah, moi, c'était ma conviction quand j'ai commencé dans le textile. Ma conviction, c'était les gens achètent plus, on rachète plus de vêtements parce que la qualité s'est dégradée. Et du coup, dans le cadre de mon travail, donc moi je fais des vêtements et j'essaie de faire des vêtements de bonne qualité. Dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à tester les vêtements du marché.
Ouais.
Et en particulier ceux de la fast fashion. Et en fait, paradoxalement, si on parle de résistance physique, les vêtements de la fast fashion ne sont pas forcément moins résistants. Pour une raison simple, c'est qu'on met beaucoup de matières synthétiques. Enfin, le synthétique, c'est beaucoup moins cher. Mmh. Le polyester, c'est beaucoup moins cher. Donc, et c'est plus pratique. Enfin, bref, c'est moins cher à utiliser. Donc, la fast fashion en utilise beaucoup. Et le polyester, c'est du plastique, c'est extrêmement résistant. Pour autant, je dirais pas que ça fait de la qualité, mais ça fait que tes vêtements, ils se déforment moins, ils perdent moins leur couleur, ils boulochent. Boulochent, c'est un peu particulier, mais ils résistent mieux aux trous si tu mets du polyester dedans. Pour autant, est-ce qu'un vêtement avec beaucoup de polyester, c'est un vêtement de qualité ? Alors, on se rend compte que c'est pas exactement ça, parce qu'il y a d'autres problèmes à l'utilisation de polyester. Ça garde les odeurs, etc. Et sans parler des problèmes écologiques. Mais pour
on va en parler.
Mais pour te faire un parallèle, un vêtement, donc en matière naturelle, ça va être moins résistant, plus fragile, mais pour moi, c'est de meilleure qualité. Je te donne un parallèle, c'est comme un verre en verre. C'est fragile. Tu vois, si tu le fais tomber par terre, il tient pas. Mais si tu le compares, tu sais, au verre en plastique que tu as dans les festivals, les éco-cups, les éco-cups, tu peux les jeter contre le mur, ils seront encore résistants. Pour autant, est-ce que tu dirais qu'une éco-cup, c'est de meilleure qualité qu'un verre en verre? Donc, c'est un peu... c'est pas évident à saisir au début, mais la fast fashion, ce n'est pas forcément moins résistant. Par contre, c'est... comme si on avait remplacé tous nos verres en verre par des éco-cups. Donc, c'est super solide, mais est-ce que tu as envie de boire plusieurs fois dedans ? Est-ce que tu vas transmettre tes verres, tes éco-cups en plastique à tes enfants ? Est-ce que quand tu déménages, tu te dis que ça ? Non, une éco-cup, c'est tellement... c'est un bon parallèle avec le textile, c'est exactement ce qui s'est passé. Une éco-cup, c'est tellement pas cher que... ça devient jetable. Donc c'est exactement les quand on remplace les verres en verre par des éco-cups, on a un produit dont on peut se débarrasser, on prend pas soin, et c'est la même chose dans le textile, ce qui s'est passé.
Mais alors du coup, de l'œuf ou de la poule, c'est parce que c'est pas cher qu'on le jette, ou c'est parce que ce que tu disais, par exemple, enfin un éco-cup, tu vois, ça, si tu mets du vin, j'en sais rien d'ailleurs, je suis pas un spécialiste de l'éco-cup, mais j'ai l'impression que ça va aussi garder la couleur, ça va garder l'odeur, enfin le plastique a priori.
Le plastique, ça garde l'odeur, ouais.
Ça garde l'odeur, ça garde les couleurs, donc j'imagine que ça fait pareil pour les fringues, donc du coup, si t'as de la transpiration, ça va garder. Après, il y a des problèmes écologiques, on va y revenir sur les microplastiques et tout. Mais...
Le vrai désavantage des matières synthétiques, c'est cette question de l'odeur. Bah, t'as déjà utilisé les serviettes en microfibre qui sèchent hyper vite. Bon, ça, c'est du polyester. Bon, c'est pas comparable. Les questions d'odeur, et même sur les fringues de sport. Donc, c'est le vrai désavantage. Mais de savoir l'œuf ou la poule, est-ce que c'est parce que c'est du polyester qu'on les jette plus, ou est-ce que c'est parce que... moi, je crois vraiment que pour le coup, ce n'est pas tellement qu'on jette plus nos vêtements parce qu'ils sont abîmés, ni parce qu'ils sentent mauvais. Je pense que la plupart des vêtements dont on se débarrasse, ils n'ont pas le temps de sentir avant qu'on s'en débarrasse. En fait, c'est que la vraie truc, c'est que oui, on se débarrasse beaucoup de ces vêtements, mais on se débarrasse d'abord pour faire de la place dans notre placard. La vraie raison pour laquelle on rachète des vêtements, c'est pas tellement parce que nos anciens sont abîmés, c'est parce qu'on a envie de nouveau. Et c'est ça le deuxième tournant qui a été pris dans ces années 80-90, c'est l'accélération de la nouveauté des collections. C'est de là que ça vient fast fashion à la base. Hein. C'est le fait de passer d'un modèle où avant les marques traditionnelles ou les enseignes, elles avaient deux collections par an, une pour quand il fait chaud, une pour quand il fait froid, globalement. Et avec l'arrivée de la fast fashion, ben, cette notion de collection, elle s'est accélérée. Donc c'est Zara hein, qui est le pionnier de ce truc-là. Donc tu passes 2 collections par an, 3 collections par an, 4 collections par an. Si tu commences à passer une collection toutes les 15 jours, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un nouveau paradigme qui est celui de l'ultra fast fashion, où la notion même de collection, elle est obsolète parce que tu as des nouvelles références, des nouveaux modèles qui arrivent chaque jour sur le site. Et c'est pas 3 nouvelles références, c'est des milliers. Enfin, en Chine, c'est des milliers de nouveaux modèles qui arrivent tous les jours sur le site.
Et du coup, moi je dis Shine, c'est Chine.
C'est Chine, ouais. Ah, ouais, moi aussi je disais Shine au début. Quand tu seras dans le game, tu diras
Shine. Je suis pas dans le
Shine,
game.
Shine, c'est une chanteuse.
Parce qu'en fait, le gros problème de Shine, de Chine, c'est cette histoire de la fast fashion, où, parce qu'en fait, ils ont encore des prix encore plus bas. Si je me trompe pas, parce qu'en fait j'avais jamais acheté, mais j'ai l'impression des critiques que j'ai lues plus bas, donc du coup des conditions de travail qui sont moins bonnes par rapport à ce que tu disais, etc. C'est ça le problème, ou est-ce que la qualité, pareil, non, la qualité elle est bonne en fait, enfin elle est bonne, en tout cas elle est moins bonne par rapport à ce que tu disais, mais c'est des produits qui durent.
Ça, en fait, si tu fous du polyester dans un produit, il va résister.
Il va durer.
Okay. Chine, ça fait des éco cups.
Ok, je comprends.
Donc,
je comprends.
C'est ça qu'ils font. Donc, moi, je dirais que la qualité n'est pas bonne, mais que la résistance est bonne. Donc, Chine, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris les caractéristiques de la fast fashion, le bas prix et les incitations à consommer. Donc, dans les incitations à consommer, il y a cette idée de nouveauté, d'avoir toujours des nouvelles collections, des nouveaux modèles, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, l'usage des promotions, c'est particulièrement... c'est une technique qui est particulièrement utilisée dans la mode, parce que globalement, si je te mets un prix avec moins X%, tu vas être plus susceptible d'acheter.
Tout le monde.
Et donc, Shein, si tu vas sur leur site, c'est assez... c'est un bon délire.
Je suis jamais allé, j'avoue.
Ah ben non, mais c'est un délire. C'est vraiment un délire de... t'as des promotions dans tous les sens, t'as de la gamification, t'as de l'intelligence artificielle pour te recommander des choses. Enfin, c'est genre, c'est ça peut être un cours de marketing, tu sais, pour les gens qui sont trop fans des nouvelles technologies, nouvelles techniques marketing. Il y a tout, tu vois, genre tous ces mots que t'entends depuis des années dans l'écosystème marketing et tout. Donc Chine, c'est juste qu'ils ont pris toutes les recettes actuelles de la fast fashion, renouveler les collections, faire des bas prix, utiliser des incitations à consommer modernes, les dark patterns, les paiements en 3 fois, les promos, la pub, le ciblage sur Insta. Ils ont pris tout et ils ont poussé les curseurs au max. Et donc, c'est globalement, Chine, c'est l'ultra fast fashion qui a réussi, quoi.
Ouais, je comprends. Et en fait, ce que ça... Alors... je ne sais pas que je vais récapituler, mais ce que tu dis d'abord, c'est que quand tu achètes de la fast fashion, le problème, c'est que tu fais travailler des gens, c'est pas esclavagisé, mais...
Moi aussi, c'est du semi-esclavage.
On est quasiment sur de l'esclavage.
Ouais.
En fait, en tout cas, tu participes à ce jeu-là.
Ouais, tu participes
de manière
ça,
consciente ou inconsciente, plutôt inconsciente, mais enfin, globalement, tu participes.
Ouais.
Et là, il y a le Bangladesh, mais il y a eu tout ce débat autour des Ouïghours.
C'est du vrai esclavage.
Pour le coup, c'est du vrai esclavage. Et de manière assez étonnante, moi, je suis... toujours surpris par le positionnement de Nike sur les femmes. Tu vois, à mort sur la libération des femmes, Nike She Runs, et voilà, toutes les pubs avec les femmes, Empower the Woman and everything. Et en même temps, ils font bosser des femmes esclavagisées, quoi.
Ah bah, c'est
surtout, incroyable.
Et surtout que c'est vraiment l'industrie textile, c'est des meufs qui produisent.
Ouais, c'est
80%
ça.
des ouvriers, c'est des ouvrières, quoi. Donc c'est vraiment effectivement. C'est ce que d'autres. Vendre du féminisme aux femmes occidentales pour exploiter des femmes.
C'est tellement cynique.
Alors cynique, ouais, non, mais ouais.
Pour moi, c'est super cynique. Enfin, Nike, pour moi, c'est. Alors, c'est une grosse marque et tout, mais. Et ils dépensent beaucoup en pub, mais j'ai l'impression que c'est la marque la plus cynique de la Terre. Parce que moi, à la limite, Chine, tu vois, ils sont... C'est transparent, plus ou moins, mais en tout cas, tu sais ce que t'achètes, quoi. Mais Nike, je trouve que c'est cynique parce qu'ils te vendent un truc et ils font exactement l'inverse.
Ouais, et surtout, Nike, ils ont été impliqués dans tous les scandales qui ont traversé l'industrie. Le premier scandale, c'est Naomi Klein qui le raconte dans son livre No Logo. On a découvert que c'était des gamins qui cousaient les ballons Nike. Et à cette époque, il y a eu un gros boycott de la marque et tout. Rana Plaza, il y a eu leurs étiquettes. Ouïghours, ils sont dedans. Enfin, tu vois, genre, ils sont dans tous. Et genre, ça n'a jamais affaibli la marque. Enfin, la marque, elle est toujours aussi désirable, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc qui est là...
Parce qu'ils mettent beaucoup d'argent en pub.
Ouais, mais beaucoup d'argent en pub, mais ça dit aussi quelque chose. Ça dit que
les gens s'en foutent.
En tout cas, ça dit qu'on ne peut pas attendre que le changement de paradigme vienne du consommateur, parce que on a un exemple précis de marque qui a été condamnée publiquement, qui a eu toutes les ONG, qui a eu des boycotts, qui est impliqué dans le fond, Louis Dour, qui est régulièrement dénoncé. Enfin, Glucksmann, il les a bien targetés et tout. Ça ne change rien à leurs chiffres. Au contraire, enfin, ils ont jamais été aussi. Je sais pas s'il y a une marque qui vaut plus cher que Nike aujourd'hui.
Marque de fringues, ouais, non, j'en sais rien. Mais enfin, moi, j'ai jamais acheté de fringues Nike pour cette raison, en fait. Mais j'avoue que. Et parce que le marketing est fort, tu vois, parfois ça me donne envie, tu vois, genre des Air Max, bon, peut-être pas des Air Max, je connais rien en Nike, mais tu vois, le logo est cool, les chaussures sont cool, en plus celles des années 80 et tout, c'est assez cool, enfin, tu vois, ce design un peu revival, machin. Et je le fais pas parce que voilà, mais en même temps, chez moi, il y a quand même cette envie d'aller acheter ce que je trouve ça cool, et en même temps, je le fais pas pour des raisons.
Ah, moi aussi, hein. Moi, je suis trop dégoûtée à chaque fois. Moi, je suis.
Ça marche, quoi.
Je suis là, mais ça, c'est magnifique. Non, c'est fait par des enfants.
C'est des femmes esclaves. Et en fait, tu parlais de. Comment s'appelle cet immeuble qui s'est effondré?
Le Rana Plaza.
Voilà, Rana Plaza, il y a eu 3 millions de morts, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Non, pas 3 millions.
1,5 million ouais. Non, je ne sais plus.
Non, 3 millions, non, c'est quelques
non,
milliers.
Non, 3 000, pardon.
Oui, quelques milliers, c'est ça.
Oui, 3 000, pour 3 millions, n'importe quoi.
3 000, mais quelques milliers, mais c'est genre, c'est dingue, tu vois. C'est là, je regardais les chiffres.
C'est la taille d'un village en France, quoi.
Tu sais, du séisme au Maroc?
2000, non ?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce genre. Enfin, c'est autant de morts que s'il y avait un séisme qui avait traversé le pays. Donc,
Et ça fait 10 ans. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose. Hein.
Alors, il y a des choses théoriques qui sont passées, comme la loi sur le devoir de vigilance, qui rend. En fait, le problème du textile, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes de sous-traitance. C'est-à-dire que même si tu retrouves des logos Nike dans les décombres du Rana Plaza, Nike, ils vont te dire, c'est pas nous, on a confié en fait la production à une usine, c'est pas notre usine en fait, donc c'est pas nous qui sommes responsables. Donc la loi sur le devoir de vigilance, son objectif c'est de rendre responsables les donneurs d'ordre. Mmh. Et comme ça, tu es obligé d'assurer en fait que les gens à qui tu sous-traites le travail, et ben ils font pas n'importe quoi. Ça c'est une loi qui est passée au niveau français, qui est en train de passer au niveau européen. Le truc c'est que pour l'instant il n'y a personne qui a été condamné, parce qu'il y a du lobbying dans tous les sens, etc. On n'a pas encore réussi à bien l'appliquer, mais elle part de là, elle part du Rana Plaza cette loi, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qui a changé sinon?
Les Ouïghours.
Non mais en fait, on voit, il y a des alors moi j'ai été au Bangladesh.
Oui, avec
Hugo Clément. Pas avec lui, mais avec son émission. Et du coup, j'ai pu voir un peu les usines et tout. Et je trouve que quand même, il y a quelque chose qui a changé par rapport au reportage que je voyais de l'époque. C'est qu'il n'y a plus d'usines dégueu. Moi, ce qu'on m'a dit...
Maintenant, elles sont bien pour les caméras.
Ouais, non, mais en fait, je pense qu'il y a une grosse pression des marques internationales qui était là en mode, il n'y a plus d'usines dégueu. De ce que j'ai compris, le gouvernement, il a fait construire toutes les usines neuves dans une autre partie de la ville. Et moi, j'ai vu vraiment des bâtiments clean, voire des bâtiments surmodernes. Et ce qu'on m'a dit, c'est que les usines, les sweatshops, enfin vraiment aux conditions horribles, elles sont réservées pour la fabrication locale. Pour le marché local, parce que là il y a pas les marques internationales qui viennent vérifier. Donc il y a quand même quelque chose qui a changé sur
le cadre de travail.
Je pense qu'il y a un vrai truc où je pense qu'on aura, attends, je touche du bois, je pense qu'il y aura plus de
toi.
Ouais, je touche, attends. Ouais, parce que j'ai touché du placo là.
Ça marche pas, le placo.
Je pense que, enfin, je souhaite qu'il y ait plus ça. Je pense qu'il y a moins de chances qu'il y ait à nouveau ce problème là en tout cas au Bangladesh. Par contre, les salaires sont toujours des salaires de misère.
Moi,
j'ai été voir une usine super moderne, mais vraiment genre la modernité, j'en ai pas vu des aussi modernes en France. Ni en Europe d'ailleurs, et donc incroyable, tout blanc et tout, enfin c'est genre c'est vraiment l'usine du futur, quoi. Et il y a des bus, enfin, et tu vois en fait les ouvrières qui sortent de l'usine et ensuite le soir elles rentrent chez elles et elles dorment dans des bidonvilles, tu vois. Ouais. Donc t'as un espèce de en fait on a modernisé les endroits qui rassurent les Occidentaux qui viennent acheter ici, mais dans la vie de ces femmes, elles sont toujours sous de la tôle ondulée.
En fait, quand je t'entends, ça me fait penser à un truc horrible, mais tu sais, les porcheries là, qui sont hyper modernes, tu sais, tu vois ces immeubles où ils stockent des porcs,
les trucs chinois,
c'est immonde,
sur 15 étages,
c'est ça,
ouais.
En fait c'est hyper moderne, tu vois, c'est assez beau de vue de l'extérieur, c'est assez moderne, et c'est le pire du pire du pire, quoi.
La déshumanisation totale.
Et ben là, moi ça me fait penser à ça, en fait.
Ouais,
quelque part,
ouais,
avec des humains.
Ouais, mais... ouais, c'est en tout cas l'argent a été mis dans le cadre de travail, mais le salaire, c'est toujours des salaires de misère, c'est toujours des conditions terribles, et ce qui se passe en plus dans ces pays, c'est que c'est aussi les premières victimes des pollutions en tout genre. Donc déjà les pollutions liées à l'industrie. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a ça aussi comme problème d'aller produire dans des pays qui sont moins disants socialement et écologiquement, c'est que on ne régule pas beaucoup comment les entreprises polluent.
Ouais.
Donc il y a régulièrement des histoires d'entreprises textiles qui rejettent leurs produits chimiques directement dans les eaux, des fleuves et tout, qui servent à alimenter la communauté, donc qui empoisonnent vraiment la nature des communautés. Mais même si on parle de réchauffement climatique, c'est vraiment c'est dans ces pays-là qu'ils souffrent le plus, quoi. L'augmentation de la chaleur, les inondations. Le Pakistan, c'est un producteur textile, un producteur de coton, par exemple. Là, les dernières choses qui arrivent à ce pays, c'est catastrophique.
Mais en même temps, tous ces pays-là, enfin les pays du Sud, entre guillemets, je ne sais pas comment les appeler, c'est ceux qui vont prendre, enfin qui prennent déjà la grosse vague. Je voulais faire une intervention. Tout à l'heure, je me disais, quand je t'entendais parler des placards, moi, ce que j'ai remarqué, pour moi, c'est que j'achète des fringues jusqu'à remplir mes placards. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, quand j'ai plus de place, ben, je n'achète plus. Et par exemple, chez moi, à Lisbonne, j'ai deux placards. Il y a un placard que je n'utilise pas du tout, mais volontairement, parce que si je commence à m'étendre, je sais que je vais acheter plus de fringues. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que c'est un bon indicateur, le placard. C'est-à-dire que, et du coup, plus tu as d'argent, plus tu as des grands placards, plus t'as de fringues aussi, quoi.
Ça, surtout à Paris, ouais, il y a un truc. Alors, je sais pas si plus t'as d'argent, plus t'as de fringues, parce que je pense qu'il y a un vrai truc avec les fringues pas chères. Tu peux avoir plein de fringues et pas beaucoup d'argent.
Vrai,
et d'ailleurs,
vrai.
Je pense que tout le monde a trop de fringues.
Il y a un vrai.
Tout le monde a trop de fringues, même les classes les plus populaires. Parce que chacun achète en fonction de ses moyens, tu vois. Quand t'es riche, tu peux avoir plein de fringues chères.
Mais il
y avait un bon documentaire qui avait été fait comme ça sur LCP. Maman, j'ai raté l'avion. Il y avait une petite pastille où ils suivaient une dame qui avait vraiment des revenus très modestes et qui allait à Primark. Et elle allait à Primark. Et c'était vraiment une dame qui était à 2 euros près, quoi. Et en fait, elle se retrouve, comme c'est vraiment pas cher, elle se retrouve à acheter plus que ce qu'elle avait prévu et plus que son budget. Et tu la vois, elle dit « Attends, des paires de chaussures... je crois que c'est 6 euros, bah elle en prend deux paires, tu vois. Et donc, tu vois comment, à un niveau de pas cher, même si t'as pas beaucoup d'argent, tu accumules trop, quoi. C'est aussi les syndromes Nose et Action. Je sais pas si t'as des gens autour de toi qui vont chez Nose et Action. C'est des magasins où vraiment tout est très peu cher. Et donc, à un moment, t'achètes parce que c'est 50 centimes. Tu vois, et genre c'est comme ça que tu remplis. Donc ça se fait à toutes les échelles. Donc l'accumulation des fringues et avoir des placards remplis, je pense que ça touche tout
et
le monde.
Et ça, c'est lié à la qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes pour se dire il faut qu'on change aussi souvent. Il y a une grosse pression sociale sur les femmes, et j'imagine, bah, j'en sais rien, c'est toi qui connais plus les chiffres que moi, mais j'ai la sensation que les femmes sont plus victimes entre guillemets, donc elles ont plus de fringues, tu vois, il y a tous ces... Bon, j'accroche pas trop avec tous les trucs autour des femmes avec leurs valises, machin, parce que c'est très sexiste, mais par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de pression sur les femmes sur le fait de changer de fringues que sur les hommes. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai un mariage, une fille qui revient avec la même robe, c'est genre, what? Alors qu'un mec, tu vois, évidemment qu'il va remettre le même costume, tu vois. Ouais. Il va même pas se poser la question,
c'est le costume de enterrement et mariage.
Ouais, c'est ça, le mec va pas se poser la question, tu vois, ouais. À aucun moment. Alors que pour les filles, il y a une pression un peu, je sais pas, c'est sociale, mais en tout cas, il y a une pression. Mais elle est, c'est lié à quoi? Parce que c'est lié à la pub qu'a pu faire Zara, c'est lié au fait qu'ils sortent des collections en permanence. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos têtes pour se dire on a besoin d'autant de fringues. Je sais pas si tu t'es posé la question.
Je pense qu'on se dit pas par besoin. C'est... Déjà, il faut reconnaître que c'est un plaisir de. Enfin, ça part toujours d'un plaisir. C'est un plaisir de s'habiller, c'est un plaisir d'être beau. Et je pense que, en fait, dans notre société, être bien présenté, être beau. C'est une des aspirations principales, hein. C'est aussi pour ça que l'industrie, voilà, de la mode, de la beauté, du sport et tout va aussi bien. Donc, et en fait, et tes vêtements, ça dit aussi qui t'es, ça dit beaucoup de choses de toi, ça dit à quelle tribu t'appartiens, etc. Donc je crois que c'est normal de soigner le paraître et d'avoir envie d'y mettre quelque chose. Donc et ensuite t'as une industrie qui se dédie à pousser ça encore
et à jouer sur tes fragilités pour que t'aies envie d'encore plus en acheter.
En fait, pour qu'on achète beaucoup de vêtements parce qu'on veut, donc parce qu'il y a une industrie qui se dédie à ça, à nous faire rien qu'un truc simple. C'est genre, même toi, tu te dis j'achète pas de la fast fashion, nanana, etc., mais je sais pas si t'as vu passer à un moment, tu te dis, tu vois ou pas cette polaire un peu blanche, la polaire Patagonia, là?
Ouais.
Bon, bah moi, je te dis ce qui s'est passé dans ma tête. Au début, la première fois que je l'ai vue, j'étais là, sympa et tout. Et à force de la voir, j'étais là,
c'est vrai.
J'ai pas de polaire chez moi. J'ai pas de polaire écrue chez moi, tu vois. Et du coup, il y a un peu un truc, t'es là, ah non, j'aimerais bien. Et pareil, il m'est arrivé la même chose sur les surchemises.
Moi, je me suis posé la question avec la polaire écrue et je l'ai jamais achetée. Mais...
Ouais, non, mais c'est comme la surchemise en velours. Tu vois, à un moment, j'ai vu, j'étais là, c'est quand même trop beau et tout. Il y en avait pas, tu vois, il y a 4 ans et tout. Et à force de le voir chez les gens, il y a un peu un truc de mimétisme, il y a aussi un truc, tu te dis, c'est vraiment beau ce truc-là. Ouais.
Et du coup, il y a un truc de mimétisme aussi, c'est-à-dire que tu veux faire comme tout le monde.
Les deux, bien sûr, et tu veux faire comme en tout cas les gens de ta tribu, etc. Tu vois, donc il y a un truc où c'est facile de faire naître le désir sur de la fringue, surtout si elle est créative, mais ça marche pour plein d'autres choses. Hein. Je pense que si tu commences un petit peu à regarder les draps ou les serviettes.
Les crocs.
Ouais.
Les crocs ou
Non, mais tu dis, c'est vrai que j'ai pas de crocs. Tu vois, t'es là. Et en fait, c'est genre. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, tu te disais pas j'ai pas de crocs, tu te disais peut-être qu'il y a pas de sandales et tout, mais en fait ça crée des besoins, ça segmente en fait tes désirs et ça te crée toujours. Tu te dis j'ai rien dans cette catégorie là. Ouais. C'est vrai que j'ai pas de haut saumon, tu vois, et tu te dis il faut que je trouve un haut saumon, etc. Et donc la première chose qui fait qu'on achète plus que ce qu'on a besoin, c'est parce qu'on en a envie. Et donc ça, c'est vraiment la nouveauté, c'est l'obsolescence programmée du désir qui se passe. Ouais. On voit des nouvelles catégories de vêtements apparaître et on en veut. Et la deuxième chose qui fait qu'on achète plus de vêtements, on achète parce qu'on veut, mais on achète surtout parce qu'on peut. Exactement. Et c'est là où le prix des vêtements, c'est pas cher. Si se racheter une polaire, bon, pour le coup, la polaire Patagonia, elle est bien chère, c'est peut-être ça qui fait qu'on en a pas dans notre dressing, mais tu vois, si en fait ça coûte 200 balles à chaque fois, enfin, en tout cas, si ça représente une partie significative de ton niveau de vie, tu y réfléchis à deux fois. Mais si c'est 10 balles,
Uniqlo, ils ont fait. J'en ai une Uniqlo, tu sais.
C'est exactement ça.
La petite doudoune. Là. J'ai acheté ma petite doudoune Uniqlo.
Oui, c'est ça. Un moment, tu te rappelles, quand les doudounes sont arrivées, au début, j'étais là. Qu'est-ce que c'est tous ces gens? On dirait qu'ils vont faire de l'équitation. Et genre, 2 ans plus tard, t'es là. C'est vrai que j'ai pas de petite doudoune, moi. Tu vois, genre,
c'est comme pratique.
C'est clair. Et donc, tu finis par l'acheter. Donc, on achète beaucoup parce qu'on veut et parce qu'on peut.
On va parler de l'impact écologique. Parce que quand tu disais tout à l'heure, c'est des produits qui sont de moins bonne qualité, ils sont de moins bonne qualité pour l'écosystème. En fait, c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre pour les gens, je crois, écosystème, pas écosystème. Parce que l'écosystème, tu vois, la planète, c'est large. Les gens disent oui, mais bon. et en fait, le truc, c'est que un écosystème qu'on connaît bien, moi, je réfère toujours à ça, c'est le corps humain. Tu vois, parce que c'est un écosystème et tu sais bien que si tu bouffes du Nutella toute la journée, bah, ça va pas très bien se passer à la fin, quoi. Tu vois, c'est sûr que voilà, ou si tu bois de l'alcool ou à plus savoir qu'en faire, forcément, ça va pas très bien se passer à la fin. Tu le sais. Tu le fais peut-être, mais tu le sais. Et pour les fringues, on n'associe pas. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est détaché, et en ce qui concerne les fringues, ça finit dans ton corps. Ça finit même dans le placenta, ça finit dans un fœtus. Les microplastiques, je crois, de mémoire, ils ne sont pas filtrés par le cordon médical. Donc en fait, c'est toi qui sais mieux que moi.
Ouais, ça, c'est le placenta. Bah vas-y, je te laisse finir.
Non, et le truc, c'est que... Non, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un impact écologique énorme, d'abord sur la planète avec les microplastiques qu'on ne sait pas filtrer, que les machines ne filtrent pas, etc., etc., machines à laver. Mais en plus, ça finit dans ton corps aussi, donc dans l'écosystème que tu connais le mieux, qui est ton corps.
Ouais, alors le truc du plastique qui se retrouve dans le corps, il y a probablement un petit rôle des fringues là-dessus, mais c'est juste qu'il y a du plastique partout dans nos vies.
Oui.
Enfin, c'est pas plus justement l'éco-cup dans laquelle tu bois que en fait c'est juste il y a tellement du plastique partout que bah oui à un moment ça se retrouve dans notre corps, donc il y a une question de en général de comment on sort de notre dépendance au plastique, donc ça tu pourras recevoir des expertes là-dessus là.
je vais faire de mon part psycho.
Ouais, Nathalie Gontard je crois, ouais. Les plastiqueurs et tout, enfin c'était c'est assez saisissant son livre. Dans le cas du textile, en fait, il y a quand même... c'est pas évident. Là, en fait, c'est ça, le problème du textile. C'est que c'est pas évident l'impact sur la santé humaine. Alors que sur la bouffe, tu le sais, tu vois. La bouffe, tu sais que si t'achètes des trucs trop transformés, ça te nique la santé. Tu sais que si t'achètes pas du bio, ben, tu bouffes des pesticides et tu t'empoisonnes un petit peu. Le textile, pas tant que ça. Alors, la première chose, c'est que je te prends l'exemple du bio, par exemple. Que tu achètes un t-shirt en coton bio ou pas en coton bio, ça va pas changer grand chose sur ta santé parce que ça arrive en fait, c'est la partie au moment où tu récoltes le coton, c'est vraiment la première étape de fabrication d'un t-shirt par exemple. Et entre temps, en fait, le coton il est lavé, teint, ce truc comme ça et tout. Et c'est à dire qu'en bout de chaîne, moi j'ai jamais vu d'études qui montraient une vraie différence en termes d'impact santé sur un vêtement en coton bio ou en coton conventionnel. Donc c'est ça qui est terrible en fait. Enfin, c'est terrible, le coton conventionnel, faut pas... y a pas d'amalgame, c'est une catastrophe pour la santé, c'est une catastrophe pardon, pour la planète, ça utilise des pesticides en quantité astronomique, ça utilise en particulier un type de pesticide qui s'appelle les néonicotinoïdes qui sont particulièrement nocifs pour le vivant, qui restent hyper longtemps dans les sols, etc. Donc c'est une cata, mais pas directement pour nous, plutôt pour les agriculteurs et les écosystèmes qui sont producteurs de coton. Et il se trouve que c'est pas beaucoup en France.
Mais comme on vit sur la planète en même temps.
Ouais, mais c'est pour le coup, autant les gaz à effet de serre, c'est vraiment mondial, autant toutes les questions biodiversité, c'est vraiment local, quoi. Donc là, on empoisonne des champs, mais plutôt en Inde, plutôt en Grèce, plutôt loin, quoi. Donc ça ne touche pas directement. Et pareil sur les produits chimiques, il y a quand même en fait une réglementation qui protège assez les consommateurs en France. C'est que normalement tous les textiles qui rentrent sur le marché français et européen d'ailleurs, ils doivent suivre REACH, qui assure en fait que les produits chimiques qu'ils pourraient avoir, ils sont dans une concentration suffisamment faible pour ne pas être toxiques pour la santé humaine. Donc ça c'est une réglementation qui protège les citoyens européens. Donc, il y a toujours des gens qui fraudent, il y a toujours des trucs et tout. Mais globalement, en tant qu'individu, en tant que consommateur, on est plutôt protégé des impacts négatifs des vêtements. Par contre, les mecs qui teignent, tu vois, les mecs qui teignent et qui sont en contact direct avec les produits chimiques, si t'es fait dans certains pays, ben, ils vont pas avoir les protections adéquates, l'eau, elle va pas être traitée. Enfin, pour le coup, l'impact, il est délocalisé. L'impact négatif, il est délocalisé. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on achète de la bouffe bio, mais pas des fringues bio. Je te ressortirai le chiffre tout à l'heure. Je crois que la bouffe bio, l'agriculture bio pour se nourrir, c'est 7-8%. Et le coton, c'est toujours moins de 1%. Quoi.
Ouais, mais parce que en fait.
tu, tu le fais que pour une raison militante, tu peux pas le faire par égoïsme en fait d'acheter du coton bio. Donc c'est ça qui est particulier. Donc il y a un impact qui est terrible dans le textile à plein d'étapes différentes. J'en ai cité quelques-uns. Les pesticides dans le coton qui font s'effondrer la population d'insectes. Et l'effondrement de la population d'insectes, c'est quand même genre une des nouvelles les plus inquiétantes parmi toutes celles qui nous arrivent en ce moment. C'est vraiment hyper inquiétant d'avoir le premier maillon de la chaîne alimentaire qui disparaît, quoi. Il y a les produits chimiques qui sont utilisés, entre autres, dans l'étape de teinture. Donc ça c'est inquiétant. Enfin, en fait, si ça c'était cette étape-là, elle était tout le temps faite en France, ça irait parce que en vrai, en France, on sait traiter les eaux usées, on sait isoler ça. En fait, on sait traiter ces déchets-là. Mais ce qui est terrible, c'est que ça soit produit dans des pays justement qui a pas de règles qui leur posent.
Ça serait plus
cher
si c'était traité.
Ça serait plus cher. Non, mais c'est exact.
Enfin, et puis après, il y a la consommation d'eau aussi.
Après, il y a la consommation d'eau, mais là encore, tu vois, genre par exemple dans le coton bio, la consommation d'eau, c'est beaucoup de l'eau de pluie, quoi. Et l'eau de pluie, si elle n'est pas contaminée par des pesticides, bah, elle repart dans les sols et ensuite c'est un cycle. Ce qui est problématique, c'est la consommation d'eau grise, par exemple. Bon, après maintenant, il va y avoir d'autres problèmes parce que effectivement, mais disons que l'eau pure, elle peut, enfin, l'eau c'est un cycle. Si elle est traitée, si elle est dépolluée, elle peut rentrer dans un cycle, quoi. Donc c'est pas parce que tu utilises de l'eau, par exemple, pour ton coton, que l'eau elle disparaît de la nature. En fait, elle retourne dans les.
Il y a toujours autant d'eau sur la planète.
Voilà, exactement. Le problème, c'est quand ces parties de l'eau-là, elles deviennent polluées, c'est plus de l'eau douce, elles deviennent salées, etc. C'est ce problème-là, quoi. Mais oui, donc par exemple, aller faire ta teinture dans des pays qui sont où il n'y a pas de règles qui les forcent à les traiter, c'est que tu gâches de l'eau. Il y a de l'eau qui disparaît, qui ne va plus être utilisable par le reste de l'humanité parce qu'elle va être trop polluée. Donc tous ces impacts-là, donc. Pesticides, produits chimiques, on a parlé des microplastiques. Donc effectivement, c'est le principe du plastique, c'est qu'il se dégrade petit à petit en microfibres et que ces microfibres, en fait, elles disparaissent jamais. C'est vraiment l'avantage du plastique et son désavantage. L'avantage, c'est que ça fait que c'est très résistant.
C'est ça.
Et quand c'est très résistant, en fait, ça disparaît jamais. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une image qui disait ça, c'est que tout le plastique qui a été produit sur Terre depuis... le début qu'on a commencé à produire du plastique.
Il est toujours là.
Il est toujours là. Et donc, il se dégrade en microfibres, mais ces microfibres, elles sont toujours là. Donc, il y a vraiment un truc où on accumule du plastique sur Terre. Donc, on parle beaucoup des microfibres des vêtements, qu'effectivement, donc, les vêtements en polyester, à force d'usage, etc., ils peuvent relarguer des microfibres. Donc, on parle beaucoup des machines à laver, comme moment où les vêtements perdent leur microfibres, mais en fait il y a une étude de Cantis est-ce que c'est Cantis ? Il y a une étude, je pourrais te redonner les sources après, qui a montré que en fait 99% du relargage de microfibres, il a lieu lors de la fin de vie du vêtement. Parce que la plupart, enfin, en gros, quand tu les fous en décharge ou justement pas en décharge et qu'ils se retrouvent dans la nature, c'est là que les vêtements se dégradent et c'est là qu'ils se transforment en microfibres. Donc ça te permet de donner un ordre, tu vois, il y a une réglementation européenne qui est en train de passer en ce moment pour dire on va forcer toutes les machines à laver à mettre des filtres à microfibres, c'est bien, mais tu te concentres sur le 1%. Le vrai problème, c'est la question de la fin de vie des vêtements. Et donc là, je peux t'en parler un petit peu de cette question de la fin de vie. Donc qu'est-ce qui se passe en France ? On achète 50 vêtements neufs par an, nos placards, ils n'ont pas grossi, donc on se débarrasse aussi beaucoup de vêtements. On estime que c'est 1 milliard de vêtements qui sont collectés chaque année. C'est tellement énorme qu'on exporte en fait ces vêtements-là. Et on les exporte en particulier, donc pour donner une ordre d'idée, hein, sur 1 milliard de vêtements qui sont collectés chaque année, il y en a 5% qui vont dans les friperies françaises. C'est ce qu'on appelle la crème, c'est les vêtements de bonne qualité. Tu vois, tes vêtements à logo, tes vêtements qui ont une valeur sur le marché, quoi. Ça reste dans les friperies françaises, il y en a 5% qui sont revendus au niveau français. Et t'en as 50%, c'est des vêtements encore en bon état, mais c'est des vêtements qui n'ont pas de valeur sur le marché de la seconde main. Ton t-shirt chine en polyester, super résistant, bon bah voilà, il est toujours bien et tout, mais comme il valait 2,09€, bah il n'y a personne qui va l'acheter à 1€.
Oui, non.
Donc tout ça représente, c'est la moitié de ce qu'on collecte. La moitié de ce qu'on collecte, c'est des vêtements en bon état que personne ne veut. Et ça, on les exporte en fait vers des pays plus pauvres. Donc ça, voilà, ça représente des grandes quantités. Et en fait, c'est quand, et ensuite le reste, les 45% restants, c'est ça peut être downcyclé. Enfin, tu vois, c'est beaucoup. On fait de l'isolant pour les maisons. On fait des chiffons pour l'industrie et on fait un tout petit peu de fil pour refaire des vêtements. Mais on fait très peu de vêtements à partir de vêtements. C'est moins de 20%.
Ah d'accord.
Ouais, c'est super dur en fait de faire des vêtements à partir.
Il y a de jeans qui fait ça, qui est en Belgique, je crois. Je sais pas s'ils le font toujours d'ailleurs, je me souviens plus du nom. Mais tu sais, où ils récupèrent les vieux jeans et ton jean, en fait, tu le recycles. Tu sais, tu leur renvoies et ils te refont un jean. Mais je sais pas trop comment ça marche en fait d'ailleurs. Je sais même pas s'ils le font à partir des fibres ou si c'est juste.
Moi, généralement, tu dois mettre un peu de matière vierge. Ou alors du synthétique parce que, en gros, quand tu recycles. Tu prends ton vêtement et tu le broies pour retrouver l'état de fibre.
Ouais.
Mais en fait, ce qui fait la qualité d'un fil, c'est la longueur de la fibre. Et donc, quand tu prends du coton vierge, ton coton du champ, ta fibre, elle est longue. Donc, ça te fait un fil de qualité. Mais quand tu recycles, en fait, comme tu broies, tu vas couper les fibres en plus petits. Donc, ça te fait un fil de moins bonne qualité. Donc, tu es obligé de couper la matière. Ton coton recyclé avec soit du vierge, soit une matière résistante comme le polyester. Donc, c'était ça pour te dire, voilà, t'en as la moitié de ces vêtements qu'on exporte dans les pays plus pauvres, en particulier en Afrique. Et là, c'est des pays où il n'y a pas d'infrastructure ou peu d'infrastructure pour gérer l'afflux de vêtements qui va être mis sur le côté, qui va devenir un déchet. Donc, l'exemple le plus connu, c'est le Ghana, où tu as ces images, en fait, de... En gros, ils avaient construit une décharge qui devait leur permettre de contenir les déchets textiles jusque 2024, enfin je sais plus, plusieurs années, elle a été remplie en la moitié du temps, quoi. Donc il y a un vrai truc où genre ce pays reçoit chaque année, chaque semaine des millions de vêtements et, en fait n'a pas d'endroit où le faire, donc ça se retrouve dans les décharges à ciel ouvert, ça se retrouve dans l'océan et donc c'est là en fait où toutes les microfibres elles se dégradent. Mais encore une fois, c'est des externalités délocalisé. C'est pas nous qui vivons. C'est pas nous qui devons vivre au milieu de tas de fringues dégagées. Enfin, nous, il y a un moment où on veut plus d'une fringue, on s'en débarrasse. Elle n'est plus. Enfin, c'est très facile
elle
de s'en
débarrasser.
Elle est plus là. Elle est pas dans la rue. Enfin, on la voit plus et tout. Donc,
tu la vois dans les poissons que tu manges.
Ouais, non, tu la vois peut-être un peu. C'est peut-être là où on a un retour d'un truc, etc. Mais pour donner une autre externalité négative de cette surproduction de vêtements, c'est qu'on a empoisonné. On empoisonne des pays entiers avec cet excès de fringues et ces pays qui sont en plus dépendants économiquement en fait de ces vêtements. En fait, il y a toute une économie de gens qui achètent les vêtements, qui les revendent, etc. et qui ne peuvent pas non plus s'en passer. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui s'est mis en place et qui est extrêmement, extrêmement compliqué à casser. Et enfin, le dernier impact écologique du vêtement, c'est les gaz à effet de serre, c'est les émissions de CO2. Donc là, je peux te... En fait, le truc qu'on peut avoir tendance à se dire, on peut se dire, y a certains vêtements qui polluent plus que d'autres. C'est vrai pour le pesticide, tu vois, c'est vrai pour où est-ce que c'est produit, tu vois, parce que les usines, elles traitent ou pas leurs produits chimiques. Mais en gaz à effet de serre, globalement, produire, c'est polluer. Et que même si tu fais un vêtement super éco-responsable, etc., il sera jamais plus de 30% ou même 15% moins émetteur en gaz à effet de serre, tu vois. Donc c'est là où toute l'idée de faire une amélioration par vêtement pour régler le problème environnemental de la mode, ça ne marche pas. Mais comme dans beaucoup de secteurs. Ce qu'il faut, c'est régler le. Enfin, ce qu'il faut, c'est jouer
faut
sur.
Arrêter de consommer.
Voilà, ce qu'il faut, c'est jouer sur la quantité globale. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup dans la bouche des scientifiques le terme de sobriété ces dernières années, en fait. Cette idée qu'on peut continuer à consommer pareil, mais nos produits vont être plus écolos, ça ne. Enfin, dans les calculs, ça marche pas, quoi.
On sait que ça marche pas.
Et du coup, si tu regardes. Je te fais quand même, si tu veux, le découpage des gaz à effet de serre dans les vêtements. Donc le premier réflexe, on se dit ce qui doit polluer beaucoup, c'est le transport, parce que comme ça vient à l'autre bout du monde. En fait, c'est 2% du bilan carbone d'un vêtement, le transport, parce qu'un vêtement c'est petit, parce qu'un vêtement c'est léger, ça prend pas beaucoup de place, donc on peut les transporter par gros conteneurs, on peut en transporter beaucoup à la fois, et donc ramener au poids individuel, le transport c'est pas beaucoup. Mais ça, c'est possible parce qu'on en fait beaucoup.
Donc,
encore une fois, ça montre que ramener la réflexion par vêtement, elle n'a pas de sens, quoi. Ensuite, la deuxième chose qu'on se dit, bah, c'est les matières premières. Les matières premières, ça utilise du CO2. Donc, les matières premières, c'est produire le polyester et ou récolter le coton. Bah ça en fait c'est à peine 30% des gaz à effet de serre. Ce qui émet beaucoup de CO2 dans la fabrication d'un vêtement, c'est la phase industrielle, c'est-à-dire c'est l'énergie qui est consommée par les machines pour passer de la fibre au t-shirt. Parce que pour passer de la fibre, il faut filer, il faut des filatures, c'est des très grosses usines qui utilisent beaucoup d'énergie. Ensuite, quand tu as fait la filature, il faut tricoter ou il faut tisser. Là encore une fois, c'est des très très grosses usines qui utilisent beaucoup d'énergie. Et il faut teindre, et là c'est encore un autre délire, c'est des très grosses cuves avec de l'eau qu'il faut monter à très forte température, et ça marche que si tu le fais avec du gaz. Et en fait, c'est l'énergie consommée par les usines qui produit beaucoup de gaz à effet de serre. D'autant plus que finalement, les vêtements ils sont beaucoup produits en Asie. Et en Asie, l'énergie, elle est très carbonée. Ça vient beaucoup du charbon, du gaz, etc. Donc, c'est ça qui est très émetteur en gaz à effet de serre. C'est l'énergie consommée par les machines qui sont localisées dans des pays où l'énergie est très carbonée, et ça multiplié par 100 milliards de francs, quoi. Donc, les gaz à effet de serre du secteur, c'est ça.
Et alors, du coup, on va parler aussi des solutions. Comment, enfin, moi je t'écoute, je me dis putain merde. comment on fait ? Qu'est-ce que tu penses d'abord ? Enfin, il y a plusieurs trucs qui m'ont éveillé quand tu as parlé. Il y a H&M qui annonce qu'ils utilisent du coton bio. Bon, moi je me suis toujours dit, bah, en fait, le problème c'est pas le coton bio, c'est d'en utiliser moins, mais voilà.
Non, c'est quand même hyper important le coton bio. C'est important qu'ils le fassent. Mais c'est pas du coton bio qu'ils utilisent. Ils vont dire du coton plus responsable.
Ah, d'accord.
Ils vont pas prendre. Tu sais, il y avait pendant toute une période, les marques de fast fashion, elles utilisaient du coton BCI. C'était Better Cotton Initiative. Oui. Et il y a eu un reportage de Élise Lucet qui montrait qu'il n'y avait pas grand-chose derrière ces trucs-là. Non, mais bio, c'est le label GOTS, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Okay. Et non, et en fait, c'est à peine 1% de ce qui est produit au niveau mondial.
C'est de la pub, quoi. Donc, il y a ça. Le deuxième truc, c'est de se dire, en fait, là, il y a une énorme tendance. J'en parlais avec la fondatrice de Label Emmaüs autour de la seconde main. Donc, beaucoup, beaucoup, en particulier les filles, mais aussi un peu les garçons, qui achètent de la seconde main en se disant bah franchement c'est beaucoup plus écolo, oui, c'est des fringues qui sont déjà produites donc après tout
ouais, c'est vrai ça, non, c'est, ben, donc c'est modulo le transport, mais c'est pas grand chose.
La
seconde main c'est beaucoup plus écolo, sauf que si tu regardes les chiffres, l'essor de la seconde main ne s'est pas du tout accompagné d'une décroissance de la consommation de neuf, au contraire en fait. C'est comme si ça s'est additionné. C'est un peu comme les énergies renouvelables et les énergies fossiles.
Ouais, je vois très bien. Moi, ça me faisait penser au. Parce que j'ai eu une discussion avec mon pote, là, je sais pas si tu vois, aujourd'hui, et, sur les routes. Et on reparlait du fait que les gens qui se plaignent du nombre de routes par rapport aux bouchons, etc. Mais quand tu rajoutes des routes, la seule réalité, c'est qu'il y a juste plus de voitures. Ouais. Il y a toujours autant de bouchons.
Ouais.
Donc, en fait, la réalité, ouais. elle est comme ça. Il faut réduire les routes si tu veux réduire le problème.
Mm.
Et là, c'est la même chose. Et moi, ce que j'avais tendance à penser, c'est, avec mon œil de personne qui ne connaît pas grand-chose au sujet, c'était le problème de la seconde main, c'est que surtout, tu es quand même dans la surconsommation. C'est-à-dire que parce que tu as bonne conscience, parce que c'est des produits recyclés, mais du coup, tu en consommes toujours autant. Alors d'abord, tu enlèves les produits à Emmaüs, effectivement, et c'est un problème. Mais aussi, en fait, tu consommes toujours autant de produits. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors pas de ta logique.
Bah, en fait, ça pourra devenir vert. Moi, je pense quand même que c'est genre...
Beaucoup mieux.
Oui, en fait, c'est dans l'idéal de notre société. On devrait donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie à nos vêtements, mais à tous nos objets, en fait. Et pourquoi pas satisfaire ce besoin de nouveauté par là, je trouve ça assez intéressant. Mais tant qu'on n'aura pas fermé le robinet du neuf, ça s'ajoutera toujours. Mais c'est comme les énergies renouvelables. Une fois qu'on aura... en fait, il faut d'abord la sobriété, et ensuite, ça fait partie... Enfin, la seconde main, ça fait partie des solutions. Mais ça ne sera une solution qu'à partir du moment où on aura fermé le robinet du neuf. À partir du moment où on achètera beaucoup moins de vêtements neufs par an. Je te rappelle, 50 vêtements neufs par an par Français. Ça, c'est sans compter la seconde main.
C'est ça, c'est ce que j'ai en train de me dire. En fait, dans ma tête, j'ai en train de me dire, ah oui, mais en fait, ça compte pas la seconde main. Il y a une segmentation par âge de ce truc, des 50 vêtements, ou est-ce que c'est pareil pour tout le monde ? Ou il n'y a pas de segmentation ?
Je crois que j'avais vu une segmentation. Effectivement, les bébés font exploser le truc. Mais...
oui, mais ça, c'est normal, parce que bon, globalement,
oui, mais là, tu peux te dire aussi, t'as tu vraiment pas besoin de neuf, quoi.
Non, bah, surtout pour des bébés, quoi, pour le coup.
Enfin, sauf si, je sais pas. Ouais, j'en ai pas. Bref, tu vois, j'ai une copine qui m'écrivait, là, et qui me disait. Il faudrait supprimer la taille 9 mois. Elle dit c'est une incitation à consommer. C'est vraiment un truc genre tu peux mettre un truc un peu plus grand ou un peu plus grand à ton bébé et tout. Elle trouvait que la taille 9 mois c'était une manière d'inciter les parents à consommer. Elle disait, je disais mais pourquoi les gens ils achètent alors la taille 9 mois s'ils en ont pas besoin? Elle dit parce que quand t'es parent tu veux bien faire et du coup tu sais genre t'achètes tous les âges et en fait il y a un truc comme ça. Bon, je sais pas la réalité de.
Est-ce que quand t'es jeune, quand t'as 18, 20 ans, est-ce que t'achètes pas aussi plus de freins que quand t'en as 40 ou 50?
Ça, je sais pas.
Je sais pas.
Je crois que. On a envie un peu de se dire ça, etc. Mais tout le monde achète beaucoup de vêtements en fait. Mais moi, je m'en rends compte. En fait, si tu commences à vraiment faire le compte, tu te rends compte que.
Surtout si on commence à compter les chaussettes, les caleçons, les culottes,
c'est des
fringues.
Ouais, grave.
Qui ont moins de coton en général qu'un t-shirt ou un jean. Mais enfin, globalement, c'est une fringue. Quoi.
Ouais. Oui.
Donc après, en termes de solution, il y a quoi? C'est comment moi je t'écoute et je me dis putain, merde. Je participe, et d'ailleurs c'est le cas, je participe. Ouais. Même si j'achète pas de fast fashion, tu vois, j'ai acheté cette grande écharpe là, tu vois, j'en ai pas besoin dans l'absolu, je la trouvais très cool, mais. Voilà. Comment je fais en fait? Par quel bout je prends?
Bah, tu peux le prendre par le bout du consommateur.
Je suis consommateur.
Voilà. T'es pas d'abord un consommateur, mais disons que. Prenons d'abord le toi consommateur. Donc la question, c'est d'appliquer la sobriété et l'éthique à ta consommation. Donc la sobriété, c'est d'acheter beaucoup moins de vêtements neufs. Et un chiffre que tu peux retenir, c'est pas plus de 5 par an. Et 5, ça comprend les slips, ça comprend les chaussettes de sport, ça comprend les baskets et tout. Donc pas plus de 5 vêtements neufs par an.
Donc en fait que des sous-vêtements quoi.
Les sous-vêtements ça tient longtemps. Hein.
Les chaussettes moins hein, quand même.
Franchement, il y a moyen. Et surtout, tu as déjà un petit stock chez toi qui fait que, à mon avis, tu peux tenir quelques années. Et si tu as une chaussette qui est un peu trouée.
Tu peux apprendre à la recoudre.
Non, mais tu peux la raccommoder. Ouais, c'est tout ça. Mais si tu dis, mets-toi le truc, si je devais acheter seulement 5 vêtements neufs par an, qu'est-ce que je prioriserais? Là, je peux te dire que tu ferais de la seconde main, tu ferais du reprisage, un truc comme ça. Bon, première chose, 5 vêtements neufs par an. Et ensuite. Ces vêtements neufs, tu te mets deux contraintes. Si c'est du coton, c'est du coton bio. Mmh. Et le pays de production, c'est un pays où t'irais travailler. enfin, un pays où genre, tu trouves que les conditions de travail, elles seraient OK pour toi aussi. Par exemple, tu peux acheter du Made in Portugal. J'ai l'impression que t'es OK avec travail là-bas.
Clairement, ouais.
Mais du Made in Bangladesh, je pense pas que t'aies trop envie de ça, quoi. Ouais. C'est un pays où t'enverrais, avant je disais un pays où t'enverrais ta fille en colo, mais je dirais plutôt ta fille en stage.
Ouais.
Tu vois, genre, et bon. Donc voilà, c'est ces deux critères-là, là, genre du bio quand c'est du coton et le pays de production, c'est méga important. Et à partir de là, en tant que consommateur, franchement, tu fais ta part. Et je t'autorise à compléter avec de la seconde main si tu veux, mais pas plus de 5 vêtements neufs. Après, on voit bien que, imagine, tu fais ça, et je pense qu'il y a plein de gens en France qui font ça. Est-ce que ça a changé le système? La réponse est non. Enfin, chaque année, il y a plus de vêtements qui sont consommés que la précédente. Donc là, il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de l'État, en fait. Il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de la régulation. Il faut qu'il y ait des lois qui nous protègent, en fait, contre cette accélération de la production de vêtements. Et ça, c'est compliqué à faire à l'échelle du citoyen. Donc, nous, ce qu'on a fait avec d'autres marques textiles, d'autres entreprises du textile, on a monté un collectif qui s'appelle En Mode Climat. Et donc, en fait, on est une sorte d'anti-lobby. C'est-à-dire, on est des entreprises et on utilise notre pouvoir d'influence pour essayer de faire changer les lois. Mais on essaye de faire en sorte que ces lois, elles nous contraignent nous aussi et qu'elles servent l'intérêt général. Là, s'il n'y a pas un changement de règles du jeu, ça va aller de mal en pire.
Oui, bien sûr.
Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des règles du jeu qui pénalisent le modèle de la fast fashion pour faire en sorte de réduire le volume de vêtements qui sont produits et consommés. Donc toi, en tant que citoyen, non plus en tant que consommateur, là, tu peux... Tu peux, voilà, toute cette question de militantisme, tu peux alerter sur le sujet, tu peux faire un podcast qui permet aux gens d'en prendre conscience, tu peux soutenir les collectifs, les députés, les politiques qui demandent en fait ce genre de régulation. Il y en a des députés en France et en Europe qui demandent ça.
Bah, Glucksmann, entre autres.
Ouais, Glucksmann en Europe, mais ils sont plusieurs. Il y a, Manon Aubry, Marie Toussaint, je les ai vus il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont parlé du devoir de vigilance. C'est toute une coalition en fait transpartisane qui a fait ça, mais même au niveau français il y a pas mal de gens qui aimeraient bien aussi en tout cas une régulation de ce secteur. Donc voilà, on peut le faire en tant que citoyen par notre vote, on peut le faire en tant que citoyen par notre militantisme. Et ensuite, c'est un peu le max qu'on peut faire après.
Après, au niveau politique. Et juste.
Je pense qu'il y a une dernière chose, je pense qu'on peut le faire au sein de nos entreprises, surtout si on est dans le textile. Parce que les entreprises, elles ont aussi des efforts à faire individuellement sur où est-ce qu'elles produisent, sur combien elles incitent à consommer, sur en tout cas à quel point elles informent sur la véracité des informations et tout. Moi, je crois beaucoup que il y a beaucoup d'entreprises qui se transforment parce qu'il y a des salariés qui mettent la pression à cet endroit-là. Donc voilà, tu as du pouvoir comme consommateur, comme citoyen et comme salarié.
Et c'est vrai que quand on est consommateur, on sait pas très bien où acheter. Et d'ailleurs, à cette occasion, je vais faire de la pub pour Victoire parce qu'elle a créé un guide sur The Good Good, donc thegoodgood.fr, où tu as un guide, je crois, de toutes ces marques qui sont responsables. Parce qu'en fait, quand tu es consommateur, du coup, tu dis, ok, mais les marques dont tu parles là, tu vois, qui utilisent du coton bio, qui font les choses bien, qui produisent dans les bons pays, où j'enverrai ma fille en stage, etc., ils sont où, tu vois, qui sont ces gens? Et en fait, tu sais pas nécessairement, parce que en fait, les marques, c'est souvent des petites marques, c'est souvent pas Nike, c'est souvent pas tu vois. Et du coup, tu te dis, parce que les marques que les gens connaissent, c'est des marques qui font de la pub.
En fait, c'est ça le problème, c'est que la plupart des magasins, des grandes chaînes, enfin en tout cas des marques que tu as en tête, elles ne remplissent pas ces deux conditions.
Non, c'est ça. Donc du coup, tu te fais, ok, mais je les achète tous mes fringues.
Ouais. Eh ben non, mais c'est pour ça que ces deux critères-là, tu regardes le made in, le pays de fabrication, et si c'est du coton bio, et ça, c'est deux informations qui sont obligées d'afficher. Et si c'est pas affiché,
c'est que c'est pas le cas.
ça veut dire que c'est pas bon. Il y a une autre, il y a WeDressFair aussi, qui est une plateforme qui agrège plein de marques éthiques. Ils font un bon travail aussi. Et après, t'as des marques dont on a entendu parler, 1083, Veja, le slip français. Voilà, tu vois, c'est tu sais quelque chose sur le made in, etc. Moi, je peux t'en citer d'autres que Asphalt, par exemple. Je crois qu'ils utilisent du coton bio. En tout cas, ils produisent au Portugal.
C'est Portugal ou Turquie en général.
Ouais, alors moi je trouve que c'est pas la même chose le Portugal et la Turquie, par exemple. Mais non, eux c'est au Portugal. En fait, y en a. Mais c'est pas aussi facile que descendre dans ta rue et aller chez Zara et un truc comme ça. Il y a moins de magasins, c'est beaucoup en ligne, quoi.
Et dans la mode, il n'y a pas ce truc de made in Italy ou made in France parce que ça a été finalisé en Europe et du coup, tu n'arrives plus à savoir quel est le pays de provenance, non?
Non, mais ça c'est... Il peut y avoir un peu des trucs de tricherie, mais c'est le gros problème de l'industrie textile, c'est pas la fraude au Made in France. Enfin, je veux dire, si tu vas chez Zara, tu vas chez Primark ou chez Uniqlo, il n'y a rien qui est marqué Made in France.
Oui.
Tu vois, et vraiment, c'est eux le problème. Tu vois, genre. Donc, cueillir, tu vois, à la marge des trucs qui ne sont pas tout à fait honnêtes sur ces trucs-là, oui, c'est embêtant, mais c'est pas le gros du problème. C'est comme la destruction des invendus. Destruction des invendus, t'as un rapport de l'ADEME qui montre que globalement, les marques, une fois qu'elles sont passées par leurs étapes de solde, de déstockeurs et tout, les invendus, c'est 1%. Bon bah oui, c'est pas terrible de détruire ce 1%, mais le problème...
Mais c'est pas le problème.
C'est pas le problème en fait, le problème c'est le 99%, c'est ce qui est effectivement vendu qui est le problème. Le problème c'est que même en produisant énormément, l'industrie textile elle arrive à vendre.
Ouais.
Parce que, tu sais, genre, si la première année tu produis 3 milliards de vêtements et t'en vends pas la moitié, l'année suivante t'en produis moins.
Ça va pas le faire, quand
même. Non, le problème c'est ce qui est effectivement vendu, et cette question de la destruction des invendus, elle a beaucoup focalisé parce qu'il y a une régulation là-dessus, mais en fait elle attaque pas la racine du problème, voire même parce que c'était quand même dégueulasse comme pratique, etc. Mais c'est surtout c'est pas une pratique de la fast fashion. La fast fashion, tu sais, elle descend le prix, à la fin ça part.
Ouais.
Les gens qui détruisent leurs invendus, c'est le luxe.
Ouais.
Parce que justement, ils veulent pas faire de décote, ils veulent pas pour garder la
valeur.
La valeur de leur produit. Donc je pense qu'ils le font plus maintenant parce qu'ils ont plus le temps. Mais c'est, c'est surtout, enfin, on les avait vus ces reportages de marques de maroquinerie qui détruisaient des trucs pour une valeur incroyable.
Ouais, c'est hallucinant.
Donc voilà.
Hyper clair. Est-ce qu'il y a un truc que les gens savent pas? Mais je crois qu'on a bien fait le tour quand même hein, sur la mode ou sur les fringues qu'il faudra absolument savoir pour bien consommer. Tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas touché ou un truc qui toi qui te semble important, une question qu'on ne pose pas et que tu aimerais bien qu'on te pose?
Non, je trouve que c'est intéressant qu'on ait parlé dès le début de la différence entre résistance et qualité.
Ouais.
Et avoir toujours en tête cette, c'est l'éco-cup versus le verre en verre. L'éco-cup, c'est plus résistant, mais pas sûr que tu le gardes plus longtemps.
Ouais, ça c'est vachement important parce qu'effectivement, il y a toujours cette logique de se dire, effectivement, les matières naturelles, c'est plus résistant, mais en fait, c'est pas forcément.
Non, il n'y a rien qui est plus résistant que le plastique. La preuve, ça ne se dégrade pas. C'est terrible le plastique, hein. C'est pratique.
Et est-ce qu'il y a aussi un truc? Question qui me vient comme ça, dans avoir des fringues qui sont pas trop à la mode. C'est-à-dire qu'en fait, par définition, si t'as des fringues qui traversent les époques, je sais pas si ça existe, tu vois, naturellement, bah du coup tu vas les garder plus longtemps aussi, parce que finalement, si c'est des fringues ultra fashion, il y a quand même des chances que d'ici 5, et encore bon, je sais pas qui tout, moi je garde des fringues, mais dans 5 ans, tu vois, ça marche plus trop, quoi.
Moi, c'était aussi une de mes convictions au début quand j'ai commencé. Ouais. Et du coup.
Dans des basiques, quoi.
Ouais, tu peux être tenté de faire des basiques, mais je crois pas que. Je pense que c'est vrai, hein. T'as des trucs peut-être trop mode particulier, ben, ça disparaît vite, hein. C'était le phénomène Barbie, là, le truc de. Mais je crois quand même que c'est pas parce qu'un vêtement est basique que tu le gardes longtemps. Je crois que c'est aussi que. Enfin, ça dépend des gens. Mais qu'il y a aussi les pièces que t'aimes, c'est aussi les pièces qui ont un peu une âme, qui sont particulièrement belles, qui sont un peu originales et tout.
Celles que t'as envie de garder.
Et ouais, et du coup, en fait, il y a un curseur à trouver entre. Enfin, tu vois, c'est comme cette polaire Patagonia. J'ai l'impression que les gens continuent à la porter alors que ça fait longtemps qu'elle est là, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc, tu peux. Parce qu'elle a coûté trop cher, donc ils sont pas prêts de s'en débarrasser.
Ah, c'est vrai que ma truc Uniqlo, là, je l'ai acheté, mais genre, je sais pas, il y a genre 5, 6, peut-être. Ouais. 8 ans, enfin, tu vois, oui. Ça fait vraiment longtemps, quoi.
Ouais.
Je la garde. Hein.
Oui, oui. Non, mais en fait, il y a aussi des trucs. Enfin,
en même temps, c'est du polyester, c'est résistant.
Je trouve que l'idée de mode maintenant. Bah, si, peut-être un peu. Peut-être que là, c'est les jeans taille basse, tu vois, c'est plus compliqué à les mettre. Mais bon, c'est. Enfin,
maintenant, c'est les jeans taille haute.
Ça, ouais, voilà. Quoi qu'il paraît que les tailles basses, ça revient. Je pense que c'est pas, en tout cas, la réponse à garder longtemps ses vêtements, ce n'est pas d'acheter, enfin, c'est pas forcément d'acheter du super sobre. Ça peut être, ça dépend de ta personnalité, mais tu peux aussi acheter des pièces qui soient hyper colorées, hyper fortes, hyper, enfin, c'est le printemps, acheter des pièces
créatives.
En fait, c'est pas
quoi.
Parce que c'est original que ça va se démoder.
D'accord.
Et c'est pas parce que ce n'est pas original que tu vas le garder longtemps, parce que tu peux t'enlacer aussi de ces trucs. Tu peux en avoir marre de t'habiller que en bleu marine. Donc il y a cet aspect-là. Ah non, il y avait une chose dont je voulais parler aussi, c'est la question de la réparation. Il faut savoir que les vêtements, c'est très facile à réparer. C'est vraiment refaire une couture, recoudre un bouton, changer un zip. C'est facile à réparer techniquement. Et c'est facile de déléguer la réparation parce qu'il y a partout en France des ateliers de retouche couture. T'es chez toi, tu regardes sur Google atelier de retouche couture et va te trouver plein de gens autour de toi. Franchement, où que tu sois. Enfin, vraiment, c'est
d'ailleurs, ça fait penser que j'ai une veste que j'ai depuis genre 20 ans et qu'il faut que je fasse réparer parce que la doublure à l'intérieur est complètement pourrie.
Ah bah non, mais là surtout, tu vas trouver des trucs dans tout le quartier. Là. Non, mais même à Lisbonne, truc.
Ouais, mais là,
truc
elle est là, donc.
Ah non, mais oui, mais c'est trop bien. Non, mais, donc, il y a des ateliers de retouche couture partout avec des gens qui sont super forts sur ce truc-là. La France est super bien maillée et c'est pas très cher de réparer. Tu vois, changer le zip de ton jean qui a craqué, qui a l'air. Ça, c'est quand même une opération qui est impliquée, c'est 15 balles. Recoudre une couture, c'est quelques euros, tu vois. Enfin, c'est vraiment.
Rapiécer un jean.
Tu peux rapiécer, tu vois, ton jean et les trous à l'entrejambe, ça va te coûter max 30 balles de tout rapiécer. Donc, bon, ça encore, c'est les réparations
chères. C'est moins cher que 10 balles un jean chez H&M.
Voilà, c'est
enfin,
ça.
J'ai pas si ça coûte 10 balles. Mais
j'y viens, mais en tout cas, il y a un vrai truc de. Les vêtements qu'on aime bien, c'est pas parce qu'ils ont été abîmés que.
Il faut les jeter.
Que vous les jetez. Et genre, par exemple, si vous êtes déjà fait dégommer vos pulls par des mythes, Si c'est des, si c'est un pull que vous aimez bien, il y a plein de d'entreprises qui se dédient à faire ces réparations-là, ah, à reprendre les trucs, à boucher les trous et tout. Donc il y a moi il y a une fille dans mon équipe qui est un peu dingue de réparation et donc elle est tout le temps en train de, je sais pas, ses pantalons dès qu'ils sont décolorés, elle refait, elle, elle les reteint et en fait ça coûte 6 balles la teinture. Tu fais une machine avec la teinture et tu vois genre ton pantalon il est à nouveau bien quoi. Elle recoud tous ces petits trous.
Même pour
et
les jeans.
Ah, ouais, même pour les jeans. Après ça te fait un truc un peu homogène donc. Comme ouais. couleur. Enfin, je trouve que pour un jean, normalement, tu dois pas t'inquiéter de la décoloration parce que ça fait partie de la beauté. Mais
c'est vrai.
Mais du coup, ce que voilà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est facile de faire réparer ou de faire réparer ses vêtements. Enfin, de réparer, moi, je sais pas faire, mais
moi non plus.
Mais disons que
je me dis qu'il faudrait que j'apprenne à reprendre mes chaussettes. En particulier.
Moi, ouais, non, les chaussettes, c'est vrai que
c'est,
vrai,
c'est vraiment la loose, quoi.
Mais oui, non, mais et donc c'est facile et c'est pas trop cher. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on répare pas ? C'est que c'est vrai que c'est pas trop cher de réparer, mais c'est encore moins cher d'acheter neuf. Mmh. Donc en fait, il y a une étude de l'ADEME qui montre que si le prix de la réparation c'est plus de 33% du prix du neuf, tu vas pas les faire réparer. Mmh. Et donc ça veut dire que si on veut que les vêtements soient réparés, si on veut faire vivre aussi tout ce réseau d'ateliers de retouche couture qui créent de l'emploi, etc., qui ont un savoir-faire, etc., ça veut dire que il faudrait, enfin, si on avait le pouvoir, une baguette magique, on pourrait dire, il est interdit de faire rentrer sur le marché français des vêtements dont le prix de vente est inférieur à 3 fois le prix moyen de la réparation. Ça veut dire que, par exemple, on pourrait pas avoir de jean à moins de 45€. Parce que t'es sûr que si ton jean il est moins de 45€, s'il a un trou, jamais t'iras le faire réparer. Tu iras en racheter un neuf.
Et tant qu'on est là, je demande un truc, parce que moi, ça m'arrive tout le temps, pas tout le temps, mais ça m'arrive souvent, de tâcher des fringues et de pas réussir à les reprendre, tu vois, elles sont tachées, ouais. Et du coup, tu vas pas mettre des fringues avec des taches. Il y a des solutions pour ça, parce que tu vois, j'ai jamais trouvé, pour le coup, tu vois, je parle d'un truc qui est pas très intéressant, mais ça va dans notre sujet. J'ai pas trouvé des solutions, tu vois.
Alors il y a 3 trucs. Déjà, si tu te fais une tache, la première chose, quelle que soit la situation où t'es, tu cours au lavabo et tu savonnes cette tache. En fait, le secret pour contre les taches, c'est d'agir vite. Tu savonnes avec du savon, avec du liquide vaisselle, ce que tu veux. Mais si tu agis vite, en fait, la tache, elle ne va pas s'incruster. Donc, Claire, la fille de mon équipe, là, elle nous pousse, tu vois. Ah, tout ça, je m'en fous, en fait, que ta chemise, elle soit trempée, tu vas passer la chemise. Bon, bref, t'as ce truc-là, et ensuite, tu fais une machine et ça part tout de suite. Ensuite, tu sais, t'as des produits qui te permettent de détacher tous les trucs un peu dégueux, à l'eau oxygénée, etc. Et sinon, tu peux reteindre. Tu surteins ton vêtement, et ça, il y a des teintures pour particuliers. Tu mets une dose dans ta machine à laver, ça te permet de reteindre plusieurs vêtements, et tu récupères ça. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas acceptable d'avoir des vêtements tachés dans notre société ? Et ça pose... Donc, la première chose, c'est, je pense qu'il y a plus de vêtements tachés parce qu'on a perdu le savoir-faire et le réflexe de faire attention à nos vêtements. Mm-hmm. Comme ça coûte 3 balles un t-shirt. En fait, s'il est taché, tu t'en fous. Mm-hmm. T'es limite, est-ce que je vais vraiment mettre une serviette ? Enfin, tu vois, genre, tu prends plus le...
Ouais. Tu fais attention, quoi.
En fait, ça a tellement pas de valeur pour toi que tu ne vas pas faire attention à pas l'abîmer, à pas le tacher, etc. Alors qu'il y a quand même des choses qui sont adaptées à ça, genre, si tu manges des spaghettis bolognaises, mets une serviette. Si tu cuisines, mets un tablier. Si tu vas faire du paintball, ne t'habille pas en blanc. Enfin, tu vois, genre, des petits tips de vie comme ça.
Des petits tips.
Il y a cette question de l'habitude qu'on a perdue parce que les vêtements valent rien. Mais il y a aussi la question de pourquoi, en tant que société, on n'accepte pas l'usure des vêtements. Enfin, c'est... Et je crois que c'est aussi lié au fait que c'est tellement facile d'avoir accès à de l'ultra neuf que
bah, du coup, on n'accepte pas.
Ouais, on n'accepte pas, mais il y a peut-être quelque chose. Enfin, dans une société plus sobre, on n'aurait que 5 vêtements neufs par an. Bah, on verrait en fait que, pas forcément. En fait, on verrait que les taches, elles ont essayé d'être récupérées. On verrait que les vêtements, ils ont été reprisés. Et en fait, on l'accepterait. En fait, c'est marque de la vie d'un vêtement. Et on le verrait pas comme.
Enfin, tu vois, on stigmatiserait pas.
Ouais, ça serait comme des tatouages, quoi. On se dirait, ah bah ça veut dire que ce vêtement a vécu, et c'est pas synonyme d'être pouilleux ou je sais pas quoi.
Ouais, c'est plutôt responsable. Trop bien. Le podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Putain, j'ai pas réussi.
T'as pas réfléchi.
À quoi je veux ouvrir la porte
Claquer.
Ah, je veux claquer la porte. Je veux claquer la porte à l'idée que le changement, qu'il n'y a pas besoin de changer les règles du jeu et qu'il suffit de laisser le consommateur se tourner vers l'éthique et que tout va se régler comme ça. Ça, c'est vraiment une idée qui nous fait du mal en tant que société, qui nous fait du mal à nous les marketeers, qui fait du mal, qui fait du mal à l'écologie, qui fait du mal au social, etc. Cette idée, il faut s'en débarrasser, quoi. Et donc, je vais ouvrir la porte à l'idée qui est la bonne, c'est-à-dire que si on veut que notre société change, il faut en changer les règles du jeu. Et donc actuellement et c'est possible, en fait. On sait qu'on peut avoir une société qui rentre dans les limites de la planète, on sait qu'on peut vivre avec 5 fringues par an qui soient produites localement dans des bonnes conditions, on sait que c'est possible, mais il faut accepter qu'on change les règles du jeu. Et c'est quand même terrible que, et les règles du jeu c'est les lois, et c'est quand même terrible que les lois, qui est, c'est juste une convention, c'est du papier, c'est une règle qu'on se bien fixe sûr. Entre humains, on n'arrive pas à les changer. Alors que c'est la réalité physique qui est en train de nous rattraper aujourd'hui avec l'effondrement climatique et de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est réel, qui est qu'on ressent dans notre chair avec ces tornades, ces inondations, ces canicules, etc., qui nous fait dire il faut changer les lois, c'est maintenant, etc. Et ça se traduit toujours pas. On n'a pas changé les règles du jeu. Le textile, il y a toujours rien qui s'oppose à la fast fashion.
C'est ouf. Merci beaucoup. C'était
merci
top. Merci Julia.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.